Tutophonics.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Tutophonics. La première chose frappante quand on écoute les 2 minutes du peuple, c'est l'aspect si particulier des voix de François Pérusse. Bien sûr, il ne s'agit pas de sa voix naturelle, heureusement pour lui. Sa voix a donc été changée artificiellement. Tous les créateurs de saga MP3 utilisent des logiciels pour enregistrer leur voix, et c'est souvent ces mêmes logiciels qui leur permettent de faire des modifications sur le son. Et oui, nous sommes à l'ère numérique et la puissance des machines ainsi que les logiciels gratuits ont rendu accessible à tous l'utilisation des effets.
Alors ne pas confondre avec les effets sonores, qui eux désignent les bruitages, audio effects en anglais. On peut distinguer 2 grandes familles d'effets, les effets de traitement, qui modifient ou corrigent certaines caractéristiques du son, et les effets de retard, qui combinent le son enregistré avec une version modifiée ou non de ce même son, légèrement décalée dans le temps. Le nombre des effets s'est agrandi quand on a commencé à utiliser des modulateurs basse fréquence, appelés LFO, pour l'anglais Low Frequency Oscillator. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce bestiau ? Mais en fait, c'est pas très compliqué. La meilleure façon de comprendre, c'est d'imaginer que vous écoutez de la musique et que votre petite sœur agit de manière régulière et constante sur l'un des boutons de votre chaîne Hi-Fi, par exemple le volume. Avant de lui taper dessus, vous observerez que votre petite sœur se comporte exactement comme un LFO. La vitesse de son mouvement correspond à la fréquence d'un LFO et l'ampleur de son mouvement correspond à l'amplitude d'un LFO. Ces LFO combinés à des traitements ou des retards donnent des résultats tout à fait intéressants.
Dans le temps, chaque effet était une machine électronique, intégrée ou ajoutée à une table de mixage dans les studios d'enregistrement. Seule la vitesse de lecture, qui est un effet de magnétophone, échappe à cette règle. De nos jours, les effets sont des puces électroniques sur nos cartes son, les DSP, ou prennent la forme d'algorithmes informatiques. On utilise ces algorithmes dans des programmes inclus dans un logiciel de son ou alors conçus pour être ajoutés aux logiciels de son qui sont prévus pour ça. Ceux-là sont connus sous le nom de plugins. Les plugins sont conçus sur des plateformes de développement standard comme DirectX pour Windows, Audio Unique pour macOS et d'autres standards propriétaires comme le VST de Steinberg et le RTLS de DigiDesign. La majorité de ces plugins ne sont utilisables qu'avec un logiciel hôte. Ainsi, lorsque vous installez un plugin sur votre ordinateur, tous les logiciels de son installés qui sont compatibles avec lui l'intègrent aussitôt comme une nouvelle fonctionnalité. Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver entre tous ces standards, compatibles, non compatibles. Sachez que certains plugins sont gratuits. Ça peut donc valoir le coup de se pencher sur la question si vous avez un logiciel hôte. Mais concrètement, un effet, comment ça s'utilise ?
Alors, il existe le mode destructif et le mode non destructif. Alors, rassurez-vous, aucun de ces 2 modes ne va détruire votre son. Le mode destructif, c'est de l'édition pure et simple. On fait une sélection et on applique un changement. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire coïncider le début et la fin de votre sélection avec du silence. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez toujours changer d'avis et annuler l'opération comme dans n'importe quel logiciel informatique bien conçu. Le mode non destructif, quant à lui, ne s'applique pas à une sélection, mais à tout le son sur lequel l'effet est assigné. Le son lui-même reste inchangé, mais c'est la lecture du son qui est modifiée en temps réel. L'avantage, c'est qu'on peut ainsi construire une chaîne d'effets dont chaque maillon peut être modifié n'importe quand. On trouve le mode destructif plutôt dans les logiciels qui font ce que l'on appelle de l'édition audio. Le mode non destructif, quant à lui, est plus répandu dans les logiciels de montage mixage audio.
La technique. Les traitements sont des effets qui, pour la plupart d'entre eux, servent à arranger le son, à la différence des effets de retard qui, eux, apportent quelque chose en plus au son, sans agir sur ses caractéristiques. Mais qu'est-ce qui caractérise un son ?
Il y a 4 caractères qui font qu'un son est différent d'un autre. Sa hauteur, plus ou moins aiguë ou grave, appelée aussi par le terme anglais « pitch », la hauteur dépend directement de la fréquence du son. Plus celle-ci est élevée, plus le son est aigu. On l'exprime en hertz ou kilohertz. Le volume, plus ou moins fort ou faible. Le volume dépend directement de l'amplitude du son. Plus celle-ci est élevée, plus le son est fort. On l'exprime en décibels ou en pourcentage. Les 2 autres découlent des 2 premiers. D'abord la dynamique, c'est-à-dire l'évolution du volume au cours du temps. Et pour finir, le timbre. C'est la composante qui fait qu'on discerne la trompette de la flûte, même s'ils jouent à la même fréquence, c'est-à-dire à la même note.
Cette dernière notion est très importante, mais est assez délicate à concevoir et mérite quelques explications. Vous savez tous que la matière est composée d'atomes. Eh bien le son, lui, est composé d'harmoniques.
L'harmonique est la composante élémentaire des sons. C'est l'onde la plus pure qui soit. Et sa forme d'onde est sinusoïdale, comme le courant alternatif que vous avez dû étudier au collège ou au lycée avec un oscilloscope. Vous avez tous déjà entendu cette onde parfaite en décrochant votre téléphone. Sur le réseau téléphonique français, la tonalité est une sinusoïde qui a pour fréquence 440 Hz. C'est d'ailleurs cette fréquence qui est souvent employée par les musiciens pour accorder leurs instruments, car il s'agit de la note La. Grâce au téléphone, vous allez peut-être commencer à comprendre la notion de timbre. Chacune des touches du téléphone émet un son différent. La ressemblance avec le son de la tonalité ne vous aura pas échappé. C'est parce que les sons émis par ces touches sont très pauvres en harmonique. En fait, il n'y en a que deux pour chaque son. Comme il n'y a que deux harmoniques par son, ça nous permet de les discerner assez facilement. Mais les sons de la vie de tous les jours sont bien plus complexes et contiennent souvent des milliers d'harmoniques ayant chacune des fréquences et des dynamiques propres.
Eh oui, c'est la présence ou non des harmoniques et leur comportement à l'intérieur d'un son qui forme son timbre. Mais quel est le traitement qui peut agir sur le contenu harmonique d'un son ?
Il existe différents types de filtres harmoniques qui peuvent modifier l'équilibre entre les harmoniques d'un son. Le plus répandu est l'égaliseur graphique multibande. Des boutons de volume sont assignés à différentes bandes de fréquence du son. Quand on touche à l'un de ces boutons, on ne modifie que le volume des harmoniques dont la fréquence correspond à la bande concernée. L'efficacité et la précision de ce filtre dépend du nombre de bandes. Il y a aussi l'égaliseur paramétrique, qui ne dispose que de très peu de bandes, mais chacune d'entre elles est réglable sur le domaine de fréquence qu'on veut. Et puis il y a aussi le filtre FFT, qui permet de dessiner littéralement la courbe de volume en fonction des fréquences.
Les créateurs de Saga MP3 utilisent les filtres harmoniques pour améliorer le rendu des sons afin qu'ils trouvent mieux leur place dans le mixage. Ils l'utilisent aussi pour changer le rendu des voix, ce qui aide quand plusieurs personnages sont joués par le même comédien. Ils sont aussi utilisés pour donner l'impression que le son provient d'un environnement acoustique particulier ou d'un haut-parleur, ou encore d'un appareil à bande passante réduite, comme les radios ou les téléphones. Nous commencerons la deuxième partie de ce tuto Phonics en parlant des traitements dynamiques. A tout de suite.